RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis, semaine spéciale, hein, on vous le dit dans cette émission, tout au long de la semaine, pour parler des élections européennes, on s'empare des grandes thématiques. Hier, on parlait de l'écologie. Demain, on parlera de la crise migratoire avec Madeleine Vatel. Jeudi, on évoquera la paix, la défense également avec Jean-Baptiste Labeur. Et puis aujourd'hui, les questions liées à l'agriculture avec Anne Kerléau. On va continuer jusqu'à 11h en se tournant plutôt vers les jeunes. Hein, comment la jeunesse s'empare-t-elle de l'agriculture au regard de l'Union européenne? On va en discuter avec nos invités et bien sûr avec vos témoignages, hein, qu'on attend au 04 72 38 20 23. Parlez-nous de vos enfants, de vos petits-enfants. Est-ce que vous avez le sentiment que déjà ils s'intéressent à l'Union européenne? Est-ce qu'ils s'intéressent également au monde de l'agriculture? Si vous êtes vous-même agriculteur, comment vous essayez de transmettre ça à vos enfants? 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis. C'est parti.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Dans cette émission, on accueillera Christian Reich. Il nous rejoindra à 10h30. Il est membre de Mauvais Gris qu'on vous présentera. C'est une forme de réseau social assez novateur, hein, qui permet vraiment de préparer les étudiants, tout comme les enseignants dans l'agriculture, à justement se préparer à bouger à l'étranger et pour valoriser certains projets. On en discutera à partir de 10h30. Avec nous déjà, Éléonore de Lambertie. Bonjour.
Bonjour Melchior.
Bienvenue dans Je pense donc j'agis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 23 ans. Vous êtes en études d'ingénieur à AgroParisTech. On va ensemble parler d'un projet que vous avez pu monter, que vous continuez d'ailleurs de travailler. C'est les déterminés. C'est un petit jeu de mots avec le mot terre, évidemment. Ça a été créé en 2016, mais ça, vous allez nous le préciser. Éléonore, en parlant de l'Europe, qu'est-ce que c'est l'Europe pour vous? Qu'est-ce que ça représente?
Là, vaste question. C'est vrai que pour moi, l'Europe, quand j'en discute avec ma famille, je pense qu'aujourd'hui, pour les jeunes, ça a moins de portée qu'à l'époque, quand il y avait toutes les personnes qui ont développé cette Union européenne. Mais aujourd'hui, pour moi, l'Europe, c'est vraiment un continent de liberté, où on a la liberté d'agir, de bouger, et la liberté de vie aussi. Et c'est ce qui me permet de déployer ce projet et de mener à bien ce projet à l'échelle de l'Union européenne et de l'Europe plus largement.
Est-ce que vous avez en tête les élections européennes? Est-ce que ça va être un moment aussi important pour vous à titre personnel?
Bien sûr, j'ai déjà fait ma procuration parce que malheureusement je ne serai pas proche de mon lieu de vote à ce moment-là. Mais bien sûr, je compte m'engager pour trouver la personne juste à élire et les députés justes, en particulier sur le modèle de l'environnement et de l'écologie. Et pouvoir accompagner au mieux la transition agricole, parce que c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui.
Mmh. Éléonore de Lambertie, si vous êtes avec nous ce matin, c'est aussi parce que vous êtes en année de césure, depuis septembre 2023 jusqu'en août 2024. Vous avez décidé avec une de vos camarades qui s'appelle Léna de reprendre une association qui existe depuis déjà quelques années. En 2016, elle a été créée, qui s'appelle Les Déterminés, pour créer des documentaires. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu comment, dans le cadre de vos études, c'est arrivé dans votre vie?
Ouais. Alors, on a la chance à AgroParisTech d'avoir la possibilité de faire une année de césure et c'est même généralement fortement conseillé. On est plus de 90% chaque promo à faire une année de césure. Et donc, cette association, c'est une association qui a été créée en 2016, comme vous l'avez dit, et qui vise à créer des documentaires sur le monde agricole, à donner la parole aux agriculteurs en particulier, qui sont souvent malheureusement un peu sortis des discussions. Et donc à ce jour, on a 3 documentaires qui ont été réalisés par des étudiants de notre école d'ingénieurs agronomes. Donc vous avez Terre à Terre, Au-delà des clôtures et plus récemment Rustique, qui s'intéresse aux races anciennes de vaches. Et cette année, du coup, on est en train de réaliser 2 documentaires. L'un, du coup, Je co-réalise sur les sols, la biodiversité et le cycle de l'eau à l'échelle européenne. Et l'ENA qui est en train de déployer un documentaire sur le monde de l'estive à travers un reportage sur les bergers et dans les Pyrénées.
L'estive, si vous pourriez nous préciser.
Oui, pardon, la transhumance dans le fait de mettre le bétail dans les montagnes pour défricher la forêt, pour entretenir les stations de ski, par exemple. Donc vraiment apporter du fourrage aux animaux, même en période très sèche, par exemple dans les vallées.
Pourquoi la réalisation de documentaires? Qui va pouvoir les regarder?
Alors moi j'ai à cœur de faire un documentaire qui soit accessible au grand public. C'est pour ça que je me suis accompagnée de pas mal d'intervenants sur cette réalisation. J'essaye à l'heure actuelle de réaliser un documentaire multi-acteurs. C'est-à-dire qu'en première ligne, c'est vraiment les agriculteurs et je pars actuellement en immersion. Je suis actuellement en immersion dans le Pays Basque, chez des agriculteurs qui sont vraiment engagés sur la régénération des écosystèmes. Que ce soit sur la régénération des sols, de la régénération de la biodiversité ou même du cycle de l'eau. Et vraiment, au-delà de ça, j'aimerais aussi faire intervenir des scientifiques, des entrepreneurs, des artisans, des citoyens européens aussi, pour vraiment questionner cette transition agricole qui pose aujourd'hui un vrai problème mais qui est vraiment nécessaire. Et mon idée derrière ça, c'est vraiment de faire prendre conscience au grand public qu'il faut s'engager, qu'il faut soutenir les agriculteurs, qu'il faut payer le juste prix. Dans l'idée de déployer une agriculture qui soit accessible à tous, bien sûr, parce que généralement, on n'a pas forcément les moyens de payer ce prix, mais vraiment de remettre la part du portefeuille vraiment dans l'agriculture, dans l'alimentation. Et généralement, on a plus tendance de nos jours à investir davantage dans les voyages, dans les chaussures, par exemple, les baskets, mais
Ouais.
vraiment de rémunérer au mieux les agriculteurs et de les accompagner dans cette transition.
Alors, vous êtes étudiante, vous faites des études d'ingénieur à AgroParisTech, comme j'ai dit il y a quelques minutes. Que représente l'agriculture pour vous? Pourquoi vous avez rejoint cette école?
J'ai toujours aimé la nature, les animaux, et je pense que j'ai vraiment une. Enfin, il y a quelque chose qui m'anime et j'ai vraiment envie d'avoir de l'impact. Et la transition, agricole, pour moi, c'est plus que nécessaire quand on voit tous les changements, que ce soit les changements climatiques, les changements de réalité, quand on voit la souffrance des agriculteurs aujourd'hui. Avoir de l'impact, c'est pour moi, une nécessité dans ma vie professionnelle et même personnelle. Et c'est au travers de cette école que je me forme sur ces enjeux, que ce soit, d'un point de vue vraiment très technique, mais aussi, aller à la rencontre de ces agriculteurs, d'être plongé dans la réalité. Et c'est pour ça que j'ai rejoint cette école il y a maintenant bientôt 3 ans.
Je rappelle que vous avez la parole ce matin dans Je pense donc j'agis pour témoigner, pour nous parler d'agriculture. Si vous êtes d'ailleurs agriculteur ou si vous travaillez dans le domaine, qu'attendez-vous des élections européennes? Parlez-nous également des jeunes qui vous entourent, peut-être vos enfants, vos petits-enfants. Est-ce qu'ils sont concernés par ce sujet? On vous attend au 04 72 38 20 23. Venez témoigner. 04 72 38 20 23. Éléonore de Lamberti, vous nous accompagnez jusqu'à 11h, on discute ensemble de cette association Les Déterminés que vous avez pu reprendre avec votre collègue Léna, avec un objectif, donc c'est vraiment de réaliser des documentaires et, alors ça c'est très important pour vous, Éléonore, vraiment de donner la parole aux acteurs clés de l'agriculture, c'est-à-dire les paysans.
Exactement. Exactement. C'est vrai que du coup, je suis actuellement en immersion depuis fin janvier 2024. Et l'objectif du documentaire, c'est vraiment de travailler aux côtés des agriculteurs pendant 3 semaines, enfin 10 jours à 3 semaines. Donc j'ai commencé par partir en Italie, puis en Suisse, puis en Autriche. Et je suis actuellement en France et je terminerai par l'Écosse. Et en fait, au travers de cette immersion, je souhaite vraiment découvrir leurs pratiques, comprendre leurs souffrances, comprendre ce qui les anime aujourd'hui, est-ce quels sont leurs enjeux, leurs défis, est-ce qu'ils y arrivent à produire de façon durable, est-ce qu'ils voient une évolution dans la régénération de leur exploitation. Et c'est vrai que la majeure partie du temps, ceux-ci me disent que les considérations, on prend généralement en considération leur méthode et leur pratique en dernier lieu. Et tout ce qui est réalisation des subventions ou des choses comme ça ne prend pas forcément en considération la nature et le fait qu'elle soit très fluctuante. Donc c'est vraiment ce qui m'a marqué au cours de ces derniers mois d'immersion, c'est le fait qu'aujourd'hui, la majeure partie des législations sont prises, bien sûr, avec un très large panel d'acteurs, mais qu'on questionne trop peu les agriculteurs aujourd'hui.
C'est un documentaire qui va s'appeler Triptyque. Je peux peut-être révéler le nom. Il sera disponible en septembre 2024. C'est vraiment le récit d'une immersion à travers l'Europe de la régénérescence des sols. Vous en êtes où actuellement de la réalisation de ce documentaire qui durera 52 minutes à peu près?
Alors, 52 minutes, je suis un peu revenue
Ouais.
sur cette idée. Malheureusement, j'ai déjà beaucoup, beaucoup de matière après toutes ces immersions. Peut-être 52 minutes, mais peut-être du coup réaliser de courtes séries en parallèle
Oui.
où il y aura vraiment un documentaire principal et ensuite je pourrais réaliser des courts épisodes sur ces immersions. J'en suis où? J'en suis, je pars en immersion dans 8 exploitations et j'en suis à la sixième. Je pars demain, par exemple, dans le Roussillon, dans un domaine viticole. Et en fait, j'ai essayé de réaliser un large panel. Donc, je suis partie à la rencontre d'éleveurs, à la rencontre de maraîchers, à la rencontre de vignerons, que ce soit à l'échelle de petites exploitations, donc plutôt à l'échelle de quelques hectares, et par exemple en Écosse, à l'échelle plutôt de centaines d'hectares, ce sera 50, 540 hectares. Et du coup, je réalise de courtes interviews à la fin des immersions, et en parallèle de ça, à partir de mi-juin, je vais interviewer des scientifiques pour les questionner sur ces pratiques et vraiment approfondir et montrer que ces pratiques sont bénéfiques pour les sols, la biodiversité et le cycle de l'eau, et également les entrepreneurs artisans. Et à partir de juin, enfin de juillet-août, je réaliserai le montage et la
Oui.
bande son que je réalise
Gabriel Buisson.
avec Gabrielle Buisson, une pianiste, et également la réalisation de la voix off, parce que comme je vous l'ai dit, j'aimerais vraiment que ce documentaire soit accessible à tous, même aux plus jeunes. Et je suis en train d'écrire la voix off de façon à la construire de façon à ce que ça soit le plus didactique possible et le plus compréhensible pardon, de
Oui.
tous. Et également avec une graphiste, avec l'idée de faire de courtes images, enfin de très simples images sur les pratiques qui sont déployées par les agriculteurs, que ce soit les couverts végétaux, l'agroforesterie, donc le principe, c'est de planter des arbres, par exemple dans les lignes de les rangs de vignes, pardon,
Oui.
ou en parallèle des rangs de vignes de façon extra-parcellaire, ou même le key line design. Donc ça, c'est une pratique que j'ai découverte pendant cette immersion en Suisse. Donc c'est le principe de planter, par exemple, les lignes de maraîchage selon les courbes de niveau.
Ah oui.
Donc vous êtes toujours sur cette même courbe de niveau, de façon à ce que l'eau reste dans, enfin, ne ruisselle pas. Vous avez aujourd'hui tendance malheureusement à avoir de nombreuses inondations ou sécheresses, mais le principe de ce key line design, c'est de faire en sorte que l'eau reste dans le sol, s'infiltre dans le sol et éviter ces inondations ou au contraire ces sécheresses, de façon à ce que l'eau reste et puisse augmenter la résilience de l'exploitation, par exemple si on a très peu de pluie. Donc c'est pas forcément le cas cette année, mais en 2022 par exemple avec ces très grands épisodes de sécheresse.
Ouais, donc c'est pas voilà, c'est pas un documentaire d'étudiants qui souvent voilà se lancent un petit peu dedans. Là, on entend vraiment que c'est très très bien pensé, c'est très professionnel. On peut citer d'ailleurs les personnes qui vous entourent. On a cité la pianiste Gabrielle Buisson, Lorraine Gomez vous accompagnera pour le montage, Laurence Deschamps-Léger pour le graphisme, Pierre Faury pour l'écriture avec vous hein, bien sûr du documentaire. Donc voilà, vous êtes aussi entouré de personnes de votre entourage. Ou ce sont des professionnels qui vont être rémunérés vraiment comme pour d'autres projets?
Alors j'ai vraiment à cœur de les rémunérer. Gabrielle est une de mes très bonnes amies, mais sinon toutes les personnes que j'ai contactées sont des professionnels
Oui.
que je rémunérerai bien sûr tous.
Voilà,
Ça c'est
Triptyque,
sûr.
le récit d'un voyage à travers l'Europe de la résilience des sols. Je reviens juste sur les exploitations que vous avez choisies pour mettre en avant dans le documentaire. Comment vous les avez choisies d'ailleurs? Parce que parfois, ça peut être parfois difficile pour des paysans d'accepter de témoigner, peut-être par manque de temps ou par timidité, par humilité également.
Oui, c'était ma plus grande peur lorsque j'ai eu l'idée de ce documentaire. C'était justement de ne pas trouver les exploitants. Et finalement, j'ai réalisé vraiment des très longues recherches où j'essayais d'épingler les sites internet, les reportages YouTube pour voir si c'était sincère et si justement c'était déjà bien ancré dans leur vision. Et j'ai la chance que tous les exploitants que j'ai contactés et chez qui je m'immerge sont vraiment très engagés et ont à cœur de déployer leurs pratiques, de déployer ce qu'ils font que ce soit pour les générations futures, pour leurs familles. C'est généralement des personnes qui travaillent avec leurs enfants juste à côté. Et c'est vraiment très agréable de voir qu'ils ont encore de l'espoir. Et c'est ce qui m'anime encore plus, c'est de faire vraiment résonner leur voix à partir de septembre 2024 et de montrer qu'une autre agriculture est possible et qu'il faut l'accompagner.
Et voilà, ils ont accepté assez facilement, finalement.
Très facilement, très
Ouais.
facilement. Et j'ai également eu beaucoup de chance aussi du point de vue scientifique. Parce que je me disais au début, quel est l'intérêt des scientifiques de m'accompagner dans ce projet? Parce que je n'avais pas forcément l'idée de les rémunérer derrière pour leur participation. Et pareil, une très grande réactivité et une très grande implication dans le projet. Donc des très grands scientifiques connus internationalement qui ont répondu présent pour ce projet.
Il est 10h16 dans Je pense donc j'agis. On va écouter de la musique tout de suite. Ça va vous laisser le temps de témoigner au 04 72 38 20 23 pour nous parler agriculture et élections européennes. Et puis on continuera de présenter ce beau projet de documentaire avec l'association Les Déterminés, avec vous, Éléonore de Lamberti. 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Il y a une ombre sur le tableau, pourtant le soleil brille bien beau, tout est cool, tout est beau. C'est l'été sur la terrasse, oui mais le mal qui le terrasse est indifférent aux saisons. Il était beau, on a beau dire, servait ses cafés grand sourire, tout le monde était content, faut croire. Il était tellement tranquille, qui aurait imaginé qu'il portait un monde sur le dos? Mais qui aurait pu deviner qu'un jour il ait dû renoncer à chanter? Le chant est libre. Pas une ombre sur le tableau, photo de famille sur le bureau, tout roule et tout est beau. L'ascenseur au dernier étage, chef d'entreprise dans sa cage, toute seule au-dessus des nuages. Raide du monde, on a beau dire, parfois qu'elle a du mal à rire, mais elle gagne bien sa vie, faut croire. C'est le prix de l'infortune que parfois les rêves importunent quand elles fredonnent dans les couloirs. Elle était tellement sereine, qui aurait imaginé qu'elle portait un monde sur le dos? Mais qui aurait pu deviner qu'un jour elle ait dû renoncer à chanter le chant? Sur le tableau, pourtant le soleil brille bien, tout est cool et
et tout est beau.
Voilà, le chant est libre. C'était une chanson de Patrick Fiori pour vous accompagner en ce mardi matin.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Il est déjà 10h20, ça passe très très vite. On a toujours notre invitée, Léonore de Lamberti, qui a 23 ans. Elle est en études d'ingénieur agro Paris-Tech. Elle a monté un projet avec une de ses camarades qui s'appelle Léna, les déterminés. Et l'objectif, il est très simple, c'est de réaliser un documentaire sur différentes thématiques agricoles, avec aussi la volonté de vraiment donner la parole aux acteurs clés du système, à savoir les paysans. C'est un documentaire qui est en cours de réalisation à travers toute l'Europe. On va pouvoir en discuter avec Léonore de Lamberti. Le temps d'accueillir Jean au 04 72 38 20 23. Bonjour Jean.
Bonjour.
Bonjour.
On entend bien.
On vous entend et puis surtout on vous écoute.
Ah oui, alors bah du coup, j'ai été très intéressé. Je suis en voiture pour aller livrer des clients, donc je suis agriculteur en Bourgogne.
Oui.
Et puis le sujet me parle énormément, puisque bah, moi ça fait 7-8 ans que je suis paysan, reconverti, plutôt forestier à la base. Et la vie des sols, les arbres, l'agriculture, les jeunes, bah, tout ça, ça me parle. Alors, je voulais surtout témoigner par rapport aux jeunes qui passent un peu dans nos fermes en ce moment, qui font des études et qui, après quelques réflexions, se disent que le monde agricole est quand même intéressant et ils tournent un peu les talons à leurs études.
Ah oui. Et pourquoi ?
Se reconvertir.
Ils se reconvertissent dans quoi ? Dans l'agriculture ?
Oui, dans l'agriculture, je ne dis pas tous, mais quand même, on rencontre pas mal de jeunes de 25-30 ans, on va dire, qui sont diplômés et qui, après ça, après avoir discuté avec des agriculteurs ou faire quelques passages en woofing dans des fermes, vont reprendre des études dans des CFPPA, quoi.
Mmh. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant. Et ces jeunes, est-ce que, finalement, au bout du compte, vous réussissez à les employer, peut-être, dans votre exploitation ?
Alors, j'embauche un peu, mais pas forcément. Alors, du coup, on est davantage dans le partage de connaissances,
oui,
on va dire. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'informations dans un domaine précis. Ben, moi, je suis producteur de petits fruits rouges, donc je ne suis pas éleveur bovin, par exemple, mais je peux donner de la connaissance dans mon activité propre. On est plus dans les partages, dans la disponibilité, quoi.
Eh ben merci beaucoup Jean, merci beaucoup d'avoir témoigné depuis la Franche-Comté au 04 72 38 20 23. C'était vraiment un témoignage de terrain. Éléonore de Lamberti, on vous a retrouvé. Je crois qu'il y a une petite coupure. J'espère que vous avez pu entendre une bonne partie du témoignage de Jean. Je vais vous le récapituler de toute façon comme je fais à chaque fois. Ça fait 7-8 ans à peu près qu'il est devenu paysan et puis il a l'occasion d'accueillir des jeunes parfois pour se former, pour découvrir dans le cadre de woofing, et puis il se rend compte à quel point certains jeunes qui sont peut-être un peu paumés, pardonnez-moi cette expression, dans leur vie, se tournent vers l'agriculture. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater, vous, Éléonore, avec peut-être vos camarades ou avec des personnes que vous avez rencontrées dans le cadre du documentaire ?
Alors, j'ai fait une très très belle rencontre. Juste avant, j'étais dans le Médoc, dans un vignoble dans le Médoc. Et le vigneron avait créé il y a quelques années une association qui s'appelle les Vignerons du Vivant, avec les apprentis d'Auteuil. Et en fait, à partir de ça, il forme des jeunes qui ont des difficultés pour intégrer le milieu du travail. Et il les forme pendant 9 mois sur le monde viticole, le milieu viticole et l'agroécologie. Et à partir de là, il peut les intégrer dans l'univers du travail. Et généralement, c'est des très gros taux d'embauche avec des jeunes qui étaient généralement très bien, très perdus et qui ne savaient pas forcément ce qu'ils allaient faire par la suite. Donc ça me parle énormément et ce projet des vignerons du vivant m'avait beaucoup touchée et impressionnée de par le nombre de jeunes qu'ils formaient et surtout sur les pratiques agroécologiques et pas forcément conventionnelles.
Mmh. Ouais, c'est intéressant de constater ça. Le woofing, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est ?
Oui, le woofing, c'est un peu ce que je fais actuellement, sauf qu'en plus j'intègre la partie interview. C'est le fait d'être logé, nourri, blanchi, en échange de quelques heures de travail par jour dans l'exploitation.
Ah, tout simplement. Donc, c'était là aussi une bonne idée de la part de Jean d'en témoigner dans cette émission. Vous faites comme Jean, vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour apporter vos témoignages. Et si vous êtes agriculteur ou si vous avez dans votre entourage des jeunes qui aiment l'agriculture, qui sont intéressés, qui ont pu peut-être vivre une expérience, n'hésitez pas à venir témoigner, à nous venir raconter ça à l'antenne. Je reviens sur votre documentaire Éléonore de Lamberti, Triptyque, récit d'un voyage à travers l'Europe, de la résilience des sols. Un documentaire, on n'a pas la durée exacte, hein, mais ça devrait durer à peu près une heure, avec à la fois des témoignages, bien sûr, d'agriculteurs, et ça c'était vraiment au cœur de votre projet, mais aussi des témoignages de scientifiques et d'experts. Pourquoi vous avez choisi pourquoi vous allez les interviewer, ces scientifiques et ces experts?
Mon idée, c'est, au travers de ces interviews, c'est vraiment de justifier d'un point de vue. Je viens quand même d'une école d'ingénieur agronome, mais du coup, j'ai un peu cette vision agronomie pure, le fait qu'on puisse régénérer et que ça ne soit pas seulement quelque chose qu'on puisse caractériser de lubie, par exemple, et vraiment de justifier ces pratiques, le fait que la matière organique, donc le fait de réintégrer, par exemple, du compost, de la paille, du ce qu'on appelle le mulch sur les terres, ça permet d'augmenter la matière organique des sols et à partir de ça, d'augmenter le stockage de l'eau, d'augmenter la fertilité du sol. Et en fait, je voulais vraiment justifier ces pratiques d'un point de vue scientifique, parce que c'est vrai que la fertilité du sol, ça parle à tout le monde, mais d'un point de vue plus scientifique, c'est encore plus imprégnant et ça permet de justifier encore plus ces pratiques. C'est ça ce que je voulais faire au travers de toutes ces interviews.
Donc des scientifiques, et comment les avez-vous sélectionnés, Éléonore?
Alors c'était très compliqué de les sélectionner, il y en avait quelques-uns que j'avais déjà rencontrés par le passé, j'ai réalisé un stage dans le milieu viticole juste avant et où j'avais la chance de rencontrer pas mal de scientifiques et à partir de ça je les ai contactés et ensuite de par ma page LinkedIn assez riche sur tous ces enjeux, j'en ai découvert d'autres et je les ai tout simplement contactés.
Voilà, avec un tournage qui est prévu, si je ne me trompe pas, vous l'avez dit, en juin ?
En juin, à partir de mi-juin, à partir de mon retour d'Écosse.
Voilà. Et puis, alors, il y a aussi quelque chose qui est important dans la réalisation de ce projet. C'est vraiment, alors, il s'appelle Triptyque. Ça veut dire que vous avez essayé de regarder à 360 degrés, avec l'objectif également d'aller sensibiliser les élus, peut-être pour leur parler de votre projet et voir aller plus loin.
Voir aller plus loin, oui. C'est un de mes objectifs aussi, c'est d'intégrer la vision politique pour essayer de les questionner sur les freins aujourd'hui à cette transition agricole, pourquoi ça va pas plus vite. C'est ça mon principal objectif à travers l'interview des élus.
Ça coûte combien de réaliser un documentaire d'une telle envergure?
J'ai fait un budget à 45 000 euros. Un budget je suis allée sur le top price parce que il faut rémunérer bien sûr la monteuse professionnelle, le studio de montage, la graphiste, la coécriture de la voix off, la pianiste et bien sûr tous les déplacements. Alors j'ai fait le choix de les réaliser tous en train ou en bus ou en voiture, éviter à tout prix l'avion et forcément c'est un coût plus élevé parce que soit le train est bien plus cher
que l'avion,
soit oui. Il faut généralement rester une nuit de transit et donc payer un logement sur le chemin.
Et on va continuer d'en parler ensemble, Éléonore de Lamberti, également avec notre deuxième invité qui va nous rejoindre dans un instant, Christian Reich de Mauvais Gris. On va vous présenter ça juste après la pause. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 ou de venir témoigner par mail à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Il est 10h30 dans Je pense donc j'agis, émission spéciale, semaine spéciale plutôt, dans Je pense donc j'agis à l'occasion des élections européennes. On s'empare des grandes thématiques. Je rappelle que demain on parlera de la crise migratoire avec Madeleine Vatel. Jeudi on parlera de la défense et la paix avec Jean-Baptiste Labeur. Hier on parlait d'écologie. Et ce matin on évoque, vous l'entendez, l'agriculture avec nos invités. Éléonore de Lamberti, je rappelle que vous avez 23 ans, vous êtes en études d'ingénieur à AgroParisTech. Vous êtes actuellement en année de césure avec votre camarade Léna pour réaliser des documentaires afin de donner la parole aux acteurs clés du système agricole, c'est-à-dire les paysans. Et vous nous présentez notamment Triptyque. Notre deuxième invité, c'est vous, Christian Reich. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous travaillez au sein de Mauvais Gris, vous êtes membre de Mauvais Gris, que vous allez pouvoir nous présenter. Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est un réseau social ?
Alors, c'est une forme de réseau social. Alors, nous, on dit Move Agri.
Ah, bah oui.
voilà, c'est la mobilité, bouger, et ça s'adresse à des jeunes de l'enseignement agricole.
Vous savez, l'anglais et moi, c'est compliqué, donc vous faites bien de le dire. Move Agri, donc c'est une forme de réseau social pour les étudiants qui travaillent dans l'agriculture.
Voilà, on s'adresse principalement aux jeunes de lycée agricole. Donc ça va être plutôt des jeunes en lycée, en bac pro, et des étudiants ensuite qui sont en BTS principalement. Alors ça peut aussi concerner des jeunes comme Léonore qui sont en école d'ingénieur, mais notre cible première, c'est les lycées agricoles.
Voilà, les lycées agricoles et avec des étudiants qui souhaitent bouger à l'étranger. Vous, l'objectif, c'est quoi ? C'est de les accompagner, de leur offrir peut-être des solutions, les conseiller également ?
Bah, c'est de les mobiliser, d'arriver à leur donner les bonnes astuces pour qu'ils puissent faire une mobilité, les bons conseils. Et c'est essayer surtout de leur donner envie de faire cette mobilité, d'aller découvrir d'autres horizons, d'aller rencontrer d'autres acteurs et faire des stages professionnels dans le cadre de leurs études à l'étranger.
C'est une action qui est soutenue, et ça, je pense que c'est important de le préciser, par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et puis dans le cadre aussi du DNA, le dispositif national d'appui à l'enseignement agricole. Ça veut dire quand même que vous n'êtes pas seul sur ce sujet ?
Voilà, c'est une commande effectivement du ministère. Ce dispositif-là, dont vous parlez, le DNA, c'est une forme d'accompagnement des lycées agricoles qui souhaitent développer des actions. Donc Move Agri, c'est à la fois un site internet qui cherche à valoriser les mobilités des jeunes, mais c'est aussi des actions de formation pour des enseignants et personnel du ministère de l'Agriculture. Et puis on produit aussi un certain nombre de ressources. On a édité un guide de la mobilité internationale, on a édité un carnet mobilité également, pour essayer de permettre aux jeunes de travailler sur ce qu'ils ont vécu quand ils ont fait leur stage à l'étranger, parce que souvent ils découvrent plein de choses, ils en reviennent ravis, mais ils travaillent pas forcément sur ce que ça leur a apporté. Et donc nous, on essaye de mettre en place des outils pour qu'ils réfléchissent aux compétences qu'ils ont acquises lors de cette mobilité à l'étranger.
Éléonore de Lamberti, est-ce que vous avez déjà entendu de Move Agri ?
Oui, j'avais déjà été sur ce site, justement pour trouver des expériences à l'étranger.
Et ça a fonctionné ?
Bah, du coup, j'étais partie directement sur mon projet de documentaire, mais j'avais regardé.
J'aimerais qu'on écoute Yves au 04 72 38 20 23. Bonjour Yves.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Eh bien, écoutez, c'est le plus beau des métiers. D'être paysan en polyculture élevage, il y a tellement de bouches à nourrir avec la surpopulation, et maintenant nous n'avons plus de... Je voudrais que les jeunes prennent exemple sur les années 50. Les années 50, on avait de tout sur place, en polyculture élevage, j'insiste. Je vais vous citer un exemple. Non seulement on avait beaucoup d'habitants, avec très peu d'habitants, alors que maintenant on est nombreux, il n'y a plus d'habitants.
Oui.
Je voudrais... À Créon, il y avait une coopérative laitière qui faisait le beurre de l'entre-deux-mer. On a tout perdu, tout, avec des politiques qui passent même à vendre les potagers en terrain à bâtir.
Merci. Yves, ça capte pas très bien. Je sais pas où vous êtes, mais on vous entend pas très bien. Ah bon, on vous entend plus. Oui. Bah écoutez Yves, merci beaucoup. Je pense qu'on a entendu le cœur de votre témoignage. Yves qui nous crie dessus. Voilà, mais c'est sa manière de parler. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. On accueillera Marc dans quelques minutes. Éléonore de Lamberti, la polyculture, on n'en a pas parlé dans cette émission. C'est le fait de cultiver en fait plusieurs espèces de plantes dans une même exploitation agricole, c'est ça ?
Exactement, et c'est la polyculture élevage, c'est vraiment, je souhaite en parler dans ce documentaire, c'est vraiment le fait d'associer plusieurs variétés végétales, mais aussi avec l'animal, parce que bien sûr, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'animal, et il y a vraiment une complémentarité et une symbiose entre la polyculture et l'élevage, avec l'animal qui va apporter, par cette déjection de la matière organique, et le végétal qui va capter la lumière du soleil avec la photosynthèse et produire du sucre pour l'animal.
Ouais.
Donc c'est vraiment un modèle nécessaire.
Un modèle qui s'oppose par la force des choses, bien sûr, à celui de la monoculture. Yves qui nous disait, il faut revenir aux années 50, où il y avait énormément d'exploitations en polyculture. Est-ce que c'est vrai ça? Je me tourne vers vous, Christian Reich.
Alors vous tournez vers moi parce que j'ai quelques cheveux blancs, peut-être c'est pour ça?
Peut-être, mais pas des années 50, pas des années 50.
Non, pas jusque-là. Je ne sais pas. Écoutez, moi j'habite dans une zone vraiment rurale où l'agriculture est très importante, sur Lozère. Et je pense qu'il y a effectivement plein de choses à faire dans des dispositifs ou dans des systèmes agricoles très respectueux de l'environnement et utilisant au maximum les ressources du territoire. Et il y a aussi plein de choses à découvrir en allant voir à l'étranger. Et nous, dans notre action sur cet outil Move Agri, c'est d'essayer aussi d'encourager les jeunes d'aller voir ce qui se passe ailleurs, ouvrir les yeux, regarder, découvrir des choses. Et c'est aussi revenir plus fort après quand on revient sur son territoire, on a des nouvelles idées, des nouvelles envies et des nouvelles ambitions.
Voilà. Vous, quel est votre rôle au sein de Move Agri, Yves? Christian Reich, pardon.
Je vous en prie. Moi, mon rôle, c'est de coordonner les personnes qui veulent bien aider à la contribution, à faire en sorte que ce dispositif fonctionne. Donc, je travaille avec un certain nombre d'enseignants. Et on constitue une petite équipe pour à la fois encourager les jeunes qui contribuent, réguler un petit peu quand il y a des choses qui sont des petits dérapages. Mais on est plutôt dans une logique on a un système très ouvert, donc on accepte toutes les contributions. Et on essaye d'encourager les jeunes pour qu'ils partagent leur expérience, avec l'idée que ça donne envie à d'autres jeunes de partir en stage à l'étranger.
Bonjour Marc.
Oui, Melchior, bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Oui, bravo pour vos émissions, RCF que je soutiens et que j'écoute.
C'est gentil.
Puisque je suis double actif, donc il y a une vingtaine d'années, j'ai pris l'exploitation familiale qui n'aurait pas dû être prise par moi et qui allait être absorbée par une grosse exploitation. Donc je suis revenu de Paris et puis je suis ingénieur agro de formation et puis je l'ai sauvé par la double activité. Alors. Donc actuellement, je viens de descendre de mon tracteur. Et puis, ce que je veux dire, c'est que je suis trésorier d'Anogec, mais autour de mon secteur, donc Bourgogne-Franche-Comté, il y a beaucoup d'écoles agricoles qui sont pleines aujourd'hui. Il y a des MFR qui devaient fermer il y a quelques années, et aujourd'hui, voire ils refusent du monde. Donc plus de jeunes, plusieurs cadres familiaux que de fils agriculteurs, bien sûr. Un peu plus de filles que de garçons, mais il y a un retour évident à l'agricole de ces jeunes qui veulent se rapprocher de la terre parce que, à cause des difficultés, notamment changement climatique, ils disent, si on veut manger demain, rapprochons-nous de la terre. Donc, il va falloir, ce que vous avez dit l'heure précédente, il y a des choses à réformer, la PAC,
oui.
Les aides à l'hectare, il va falloir abandonner ça et puis faire autre chose. Mais il faudra toujours des aides. Et puis, le commerce international... Et il va falloir aussi réguler ça. Ce que font les Suisses, nous on n'est pas très loin de la Suisse, donc tant qu'ils ont, ils n'importent des produits que s'ils ne sont pas produits sur le territoire. Donc à un moment donné, il va falloir protéger ceux qui produisent, notamment ceux qui ont des petites exploitations.
Mmh.
Alors on n'empêche pas le machinisme, le machinisme est là,
oui.
Mais il y a un moment donné, on peut travailler en commun.
Donc ça, voilà, c'est ça. Ça rejoint la première partie de l'émission sur les jeunes. Pardon, Marc, je me permets puisqu'on se concentre vraiment là-dessus dans cette seconde partie. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes?
Eh ben, immédiatement, il faut qu'ils aient un accès au foncier déjà, qu'on leur facilite l'accès au foncier. Ce que disait donc en 2025, il va y avoir une année jubilaire et dans la Bible, les années jubilaires, il y avait une remise à plat de toute la société un peu et notamment une redistribution des terres. Donc il y a l'accès au foncier, puis des aides, réorienter les primes vers eux, et non pas aujourd'hui favoriser la concentration. C'est très clair, aujourd'hui, les primes PAC, elles favorisent la concentration, et ça n'a plus de sens, parce que les exploitations moyennes, comme celle de mes parents, il y a un moment donné, aussi, on fait autre chose. Alors, moi, je suis double actif, mais on est investi de la société.
Et ça, voilà, merci beaucoup, Marc, vraiment, d'avoir apporté ce témoignage. Et ce qu'on entend, d'ailleurs, à travers ce que vous dites, c'est cette volonté de peut-être d'y avoir des réformes pour permettre aux jeunes de revenir à la terre. Et je trouve ça vraiment pertinent. Merci, Marc, pour votre témoignage. Il y a beaucoup d'appels ce matin. On accueillera Jean-Jacques dans quelques minutes. Éléonore de Lamberti, je trouve ça intéressant. C'est vrai, au regard des élections européennes, est-ce que ça peut être une idée d'essayer de, au niveau de l'agriculture, bien sûr, de penser aux jeunes?
Je pense que c'est nécessaire quand on voit la moyenne d'âge des agriculteurs et le nombre de fermes et d'exploitations qui cherchent des repreneurs aujourd'hui. Il y a énormément d'entreprises ou de start-up qui essayent justement d'accompagner cette transition et de trouver le juste repreneur et de l'accompagner à l'échelle de quelques années pour pas qu'ils partent de la sortie de son bac agricole à la reprise d'une exploitation et vraiment de les accompagner, que ce soit d'un point de vue technique, mais aussi financier, bien sûr.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christian Reich?
L'Europe, c'est vrai qu'elle est déjà quand même... Bon, il y a la classique qu'on connaît tous, la PAC, mais il y a aussi pas mal d'aides dans le programme Erasmus aussi, qui est très connu, qui favorise des mobilités et tous les financements qui sont apportés aussi aux établissements de formation pour la mise en place de dispositifs de formation.
Oui. Après Marc, nous avons Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, je voulais témoigner d'une reconversion agricole difficile. Il s'agit de ma fille, donc oui. Je connais bien le problème.
On la salue.
Oui. Qui, avec plusieurs personnes, ont décidé de racheter un domaine agricole sous forme de GFA. Qui correspond à peu près à 13 hectares, qui faisait des myrtilles, des fruits rouges et du maraîchage. Et en fait, la difficulté, ça a été en fait de s'entourer de gens qui étaient un peu inexpérimentés et qui n'avaient pas la même éthique qu'elle sur les objectifs à tenir. Et donc, pour le moment, elles sont un peu au point mort, quoi. C'était surtout pour dire aux jeunes qui veulent se lancer qu'il faut quand même avoir un projet solide avant de se lancer dans ce genre d'aventure.
Oui. Et votre fille, elle s'en sort?
Alors, notre fille, en même temps, elle est dans l'enseignement, donc elle travaillait un petit peu toujours dans l'enseignement.
Double actif, comme Marc.
Oui, mais voilà, le problème actuel, c'est qu'elles ont sur le dos un domaine qui ne fonctionne pas. Et il faut trouver une solution.
Donc pas simple, il faut s'accrocher. Eh ben Jean-Jacques, merci beaucoup. Là aussi un témoignage de terrain, ça fait plaisir vraiment de vous entendre ce matin. Éléonore de Lamberti, on se rend compte aussi à travers ces nombreux témoignages que c'est un domaine qui est difficile, qu'il faut s'accrocher, qu'il faut se battre pour réussir.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a surtout sur les domaines de l'agroécologie et du changement, plus je parle avec les agriculteurs chez qui je suis, plus je me rends compte qu'au début, à l'initiation de leur projet et de leur changement de pratique, ce qui les freinait le plus, ce n'était pas forcément les moyens financiers, mais c'était vraiment le verrou sociétal, le verrou social, et le fait qu'on leur disait que ça ne marcherait pas, que si on en était arrivé à là, c'est qu'il y avait une raison. Et vraiment ce retour à des pratiques plus justes pour l'environnement, l'écosystème, le fait de remettre des couverts, d'éviter le labour, de... Toutes ces pratiques-là, il y avait vraiment un verrou et le fait qu'on leur dise que ça ne marcherait jamais, ça freine bien sûr.
Christian Reich, comment on garde en tête ça, vous, pour Mauvais Gris? Comment vous essayez de dire aussi, attention, vous vous attaquez à un domaine qui est parfois compliqué, il va falloir s'accrocher les amis?
Oui, pas simple. Je pense que c'est aussi le rôle de la formation, c'est d'accompagner les jeunes pour qu'ils poursuivent leurs études, ça permet aussi de mûrir un peu, de prendre du recul, d'aller voir aussi ce qui se passe soit en France ou à l'étranger ou en Europe, hein, tout simplement, de rencontrer d'autres personnes et de construire son projet. On sait tous que c'est très très compliqué de reprendre une exploitation, de s'installer ou de créer une exploitation. Et donc, il faut que ce soit un projet mûrement réfléchi et construit, quoi. Et quand on a partagé de l'expérience avec d'autres, ça permet de se renforcer, quoi.
Alors, mauvais gris, on va entrer un peu plus dans le fonctionnement de ce site internet. C'est une forme de réseau social, hein, à la fois pour trouver un stage, pour également essayer de lister les différentes bourses, les aides possibles pour un jeune qui souhaite aller plus loin dans l'agriculture. Et puis, il y a aussi toute une partie accessible pour les enseignants, hein, pour les profs. Le coin des profs, d'ailleurs, ça s'appelle. Christian, que viennent faire les enseignants sur Mauvais Gris? Agri, pardon.
Oui, je vous en prie. Ben, les enseignants, ce sont eux qui animent dans les lycées, dans les MFR, dans les établissements de formation. Ce sont eux qui animent la mission de coopération internationale. Donc souvent, ce sont les premiers interlocuteurs quand les étudiants souhaitent faire un stage. La question peut se poser de faire un stage soit dans le département voisin, soit dans un autre territoire, quoi, en Europe ou dans un pays plus éloigné. Ben dans ces cas-là, il faut réfléchir à la fois trouver le lieu de stage, avoir les bons contacts, trouver la thématique qui est professionnelle. Donc, si vous faites une formation professionnelle, par exemple, je sais pas, dans la gestion et la maîtrise de l'eau, il faut trouver un stage qui correspond, hein, dans un pays qui correspond. Et ça se construit, et ça se construit avec l'équipe pédagogique, avec l'enseignant en charge de cette mission-là.
Éléonore de Lamberti, je reviens à votre projet documentaire triptyque, hein, qui devrait sortir en septembre 2024. Pour l'instant, vous êtes toujours dans la phase de tournage. Actuellement, vous êtes, si je me trompe pas, en France. Déjà, vous êtes en France, c'est déjà ça.
Dans le Pays Basque,
voilà, excusez-moi.
Dans une exploitation polyculture élevage, justement.
Voilà. Vous êtes parti en Italie, en Suisse, en Autriche, et vous avez prévu de terminer votre tour par l'Écosse. Est-ce que vous avez constaté des vraies différences dans l'agriculture, dans d'autres pays, une approche peut-être différente?
Moi, j'ai été très marquée par l'agriculture en Suisse, justement. Quand j'étais vraiment dans une région très rurale, un canton de Lucerne, à côté de Lucerne, de Olten, à 1h30 de Zurich. Et en fait, là, j'ai vraiment découvert des micro-exploitations, des micro-fermes. J'ai revu des cochons dehors que j'avais pas forcément vus en France. J'ai vu des fermiers avec une dizaine de vaches que j'avais pas forcément vues en France. Vraiment, de voir l'exploitation à taille humaine, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, en particulier en Suisse.
Et que vous avez essayé de mettre en avant dans le documentaire?
Exactement, oui.
Ouais. On va continuer avec Corinne. Il y a beaucoup d'appels, hein. C'est très sympa. Bonjour Corinne.
Oui, bonjour. Alors moi, je suis exploitante agricole depuis 3 ans. Je suis en train de reprendre une exploitation qui n'a pas été travaillée depuis, sur cette terre partie, 40 ans et d'autres 100 ans. Je n'ai donc pas de revenus puisqu'en fait, voilà, je suis en train de tout réhabiliter. Je recherche activement des jeunes. Bon, pour l'instant, des woofers parce que j'ai pas les moyens, mais il y a une capacité d'investissement. Moi, ça va s'agrandir parce qu'il y a il y a des terres qui sont à vendre juste à côté. Moi, j'ai plus de sous, mais et on voudrait absolument freiner la spéculation foncière parce que dans le Var, c'est ingérable. Il y a des agriculteurs qui en fait spéculent sur de la terre pour qu'elle devienne constructible après et qui sont investis dans les mairies et des villages. C'est ingérable, c'est-à-dire qu'on en a marre de la magouille, on voudrait juste réhabiliter des oliveraies, des pistacheries, des trucs qui sont à l'abandon, et moi j'ai pas assez de mes deux mains, et il y a un potentiel immense, voilà, avec un paysage merveilleux dans le Var, avec du soleil et tout ça, quoi, voilà.
Mais vous êtes une battante, on l'entend Corinne.
Oui, j'étais nutritionniste dans l'agroalimentaire, je suis complètement dégoûtée, donc je suis ingénieure dans l'agroalimentaire à la base, hein, et je suis en train de me mettre au vert parce que depuis 3 ans, à force de constater que l'agroalimentaire, c'est que des saloperies, parce que moi je cautionnais les process agroalimentaires dans des grosses boîtes, je ne dirais rien, Fabrice et compagnie, mais voilà. Donc on en vient à se tourner vers le vert et à vouloir trouver des jeunes qui ont envie de faire des belles choses.
Bah vous êtes aussi une jeune, mais dans le domaine, Corinne.
C'est ça.
Alors, et vous en appelez ce matin aux jeunes qui pourraient peut-être vous aider dans le cadre de Woofing. Vous êtes dans le Var, sans donner vos coordonnées à l'antenne, mais vous êtes dans le Var. Donc si jamais des jeunes ou des parents, des grands-parents nous entendent actuellement, peut-être que ça pourrait intéresser.
Dans un lieu paradisiaque, entre la mer et le Verdon, franchement, voilà.
Bah, écoutez, le message est passé. Si jamais quelqu'un est intéressé, vous envoyez un mail à l'adresse direct@rcf.fr ou directement sur WhatsApp au 04 72 38 20 23. Merci beaucoup, Corinne, pour votre témoignage. J'espère que ça va fonctionner pour vous, mais c'est, je trouve ça agréable d'entendre votre persévérance ce matin. Christian Reich, des Corinne, il y en a beaucoup, comme ça, des personnes qui changent du tout au tout, du jour au lendemain.
Ah ça nous sur mon territoire en Lozère il y en a pas mal, oui, effectivement, de gens qui changent de vie. On sait aussi que dans les écoles des écoles d'agronomie, les écoles d'ingénieurs, il y a aussi pas mal de jeunes qui font des longues études et qui changent de cap ensuite, et on a un certain nombre de témoignages de jeunes sur Mouvagri qui ont bifurqué dans leur cursus et changé d'orientation, effectivement.
Un mot sur Move Agri, ce réseau social dont vous êtes membre, qui a destination donc à la fois des étudiants, des lycéens en lycée agricole, mais aussi des enseignants. Il y a un volet, alors comme réseau social, d'ailleurs, comme tous les réseaux sociaux, pour raconter, pour témoigner également sous la forme d'un blog, ça c'est très important.
Ah, c'est vraiment le cœur du système. Nous, on essaye d'encourager les jeunes qui partent faire leur stage, qui racontent en fait ce qu'ils ont vécu. Hein, on leur demande de raconter ce qu'ils ont vécu, dans l'idée que c'est valorisant pour eux. Hein, ça leur permet de partager avec leur famille, leurs amis, etc. ce qu'ils vivent dans leur mobilité. Et en plus, ça leur permet éventuellement de candidater au concours Mouvagri. Donc chaque année, il y a un concours qui décerne 5 prix aux 5 meilleures contributions sur le site. Donc on a la remise des prix d'ailleurs demain. S'il y a des gens intéressés, connectez-vous sur le site Mouvagri. Vous pourrez assister au témoignage de jeunes qui ont vécu des déplacements l'an dernier au Chili, en Guyane, au Bénin, enfin plein d'endroits dans le monde.
Pardon. Non, mais c'est très intéressant. Éléonore de Lamberti, on arrive à la fin de cette émission. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Où est-ce qu'on peut peut-être regarder un petit peu les photos que vous prenez en attendant de pouvoir voir le documentaire?
Alors, j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle Triptyque, TRIPTYQUE-DOCU. Oui. Et sinon, en parallèle de ça, vous avez le compte LinkedIn, le compte Facebook de l'association Les Déterminés.
Voilà, Les Déterminés sur Facebook et LinkedIn. Alors, Terre, déterminé comme la Terre. Et puis, Triptyque-DOCU, c'est votre compte Insta. On peut aller se renseigner. On mettra d'ailleurs les liens sur notre site internet rcf.fr. Même question pour vous, Christian Reich. Hein, le plus simple pour rejoindre Mouvagri, c'est d'aller sur votre site internet.
Voilà, tout simplement, mouvagri.educagri.fr. Vous pouvez consulter, tout est ouvert, vous pouvez consulter les contributions des jeunes, vous avez la liste des membres, vous pouvez les contacter en mettant des petits commentaires, des encouragements, c'est toujours très apprécié de la part des jeunes d'avoir des petits retours d'adultes qui font des petits encouragements, c'est bien, et si vous avez envie de contribuer, il faut créer un compte et vous pouvez contribuer.
Eh ben merci beaucoup vraiment à tous les deux d'avoir participé à cette émission, c'était un vrai plaisir, on était sur le terrain, c'était très intéressant, Christian Reich et Éléonore de Lamberti. On arrive presque à la fin de cette émission, je dis bien presque, puisque comme tous les mardis, on va rester dans le monde de l'agriculture et de l'écologie avec notre chroniqueur. Alors que la lutte contre le changement climatique se veut au cœur de l'agenda politique à l'aune des élections européennes, on reçoit Julien Deséchaux, le directeur du média Sans Transition, pour faire le point sur la fin promise du soutien aux énergies fossiles. Bonjour Julien.
Bonjour Melchior.
9 ans après l'accord de Paris qui annonçait la fin du soutien aux énergies fossiles, où en sommes-nous à présent?
D'après le très récent rapport annuel Banking on Climate Chaos, sorti mi-mai, qui analyse les financements internationaux des énergies fossiles, la France reste le second plus important pays à soutenir les géants du pétrole et du gaz, avec près de 27 milliards de dollars accordés entre 2021 et 2023 pour une manne qui s'élève à près de 6 900 milliards de dollars versés par les 60 plus grosses banques mondiales aux énergies fossiles, à rebours de leurs propres engagements pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Les banques françaises ont accordé 67 milliards de dollars à l'expansion fossile sur la même période. Certes, c'est moins qu'avant et moins qu'ailleurs, mais tout de même, on marche sur la tête.
Et que précise ce rapport dans le détail à l'échelle mondiale ?
Cette 15e édition constitue l'analyse mondiale la plus complète sur le financement aux énergies fossiles. Les banques états-uniennes restent en tête du classement avec 31% des financements accordés au secteur, devant les banques chinoises 15%, canadiennes 13% ou encore japonaises 11%. Les banques anglaises puis françaises arrivent ensuite avec respectivement 8 et 7% des financements aux énergies fossiles depuis 2016. Alors que les banques françaises se sont engagées à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, 4 d'entre elles, pour ne pas les citer, dont BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et Banque Populaire, Caisse d'Épargne, continuent de financer largement le secteur pétrogazier et restent particulièrement exposées aux grandes entreprises pétrolières et gazières publiques et privées, dont Total Energy, Eni et Saudi Aramco, qu'elles ont soutenu à plus de 27 milliards de dollars entre 2021 et 2023, faisant de la France le deuxième plus gros pays à soutenir ces entreprises en dépit de leur stratégie d'expansion dans les énergies fossiles.
En réaction à ce rapport stupéfiant, Julien, comment réagissent les associations comme les Amis de la Terre ou Reclaim Finance ?
Alors que les banques françaises ont baissé leur financement aux développeurs fossiles en 2023, Reclaim Finance et les Amis de la Terre France appellent BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et BPCE à définitivement cesser tout soutien à l'expansion des énergies fossiles et à augmenter massivement leur soutien à l'approvisionnement en énergie soutenable. Laissons Lucie Pinson, la directrice de Reclaim Finance, conclure cette chronique. Devant des signaux climatiques au rouge, c'est à toute la chaîne des énergies fossiles qu'il faut s'attaquer. Que les banques puissent encore financer de nouveaux champs ou terminaux de gaz naturel liquéfiés est aussi catastrophique pour le climat que révélateur de l'influence de leur politique sectorielle. Les banques doivent de toute urgence cesser de financer cette expansion et privilégier des financements aux énergies soutenables pour la production d'électricité. CQFD.
Merci beaucoup Julien des Échos pour cette chronique et rendez-vous sur le site Sans Transition Magazine pour en savoir plus. Merci encore à Éléonore de Lamberti et Christian Reich pour leur participation à cette émission. Merci à Pascal, Baptiste, Catherine à la réalisation. Demain, on se retrouve toujours dans cette semaine spéciale à l'occasion des élections européennes avec Madeleine Vatel. On parlera de la crise migratoire. Et puis, je rappelle que jeudi, on évoquera la défense et la paix avec Jean-Baptiste Labeur. Toutes les informations sont à retrouver dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Bonne journée à tous et à demain.